Alors oui, Jonas, vous le connaissez tous, ou en tout cas vous en avez entendu parler. Il fait partie, aux côtés de Noé, Moïse et Jésus, des personnages les plus connus de la Bible parmi nos contemporains. Alors Jonas, le têtu, Jonas, la tempête, Jonas, la fuite, Jonas, le gros poisson, Jonas et Ninive, sa colère, et même Jonas et l'arbre appelé de Ris. Jonas, en hébreu, veut dire la colombe. Alors la colombe, il y a celle de Noé. Souvenez-vous, celle qui annonce la fin du déluge et l'alliance de Dieu avec les hommes. La colombe, il y a aussi celle de l'Esprit qui descend sur Jésus à son baptême. Jonas, la colombe, Jonas, la paix. Pourtant, sa vie qui nous est racontée est tout sauf paisible. Jonas se définit aussi comme un hébreu. C'est ce qu'il dit lui-même dans le premier chapitre. Et l'hébreu, dans sa définition, c'est le passeur, celui qui traverse, celui qui chemine. Alors la paix serait-elle un chemin ? Le livre de Jonas contient 4 petits chapitres. Et c'est un livre vraiment intéressant. Vous pourrez le relire tout à l'heure chez vous. Ce livre explique en réalité les difficultés de Jonas de comprendre le message divin et sa difficulté de l'annoncer. Le risque des mauvaises interprétations, le risque de la mauvaise image que l'on a de Dieu. Qui est Dieu ? Que me dit-il ? Et que fait-il ? Ces 3 grandes questions ont été partagées pendant tout l'automne et jusqu'à dimanche dernier avec les enfants pendant nos cultes de famille. Ce que Jonas voit, entend et comprend et répète de la part de Dieu, est-ce la réalité ou est-ce sa propre compréhension de Dieu ? Éternel problème de communication entre Dieu et les hommes. Quelle est la volonté de Dieu ? Quels sont nos désirs ? Au début de l'histoire, Laurette vous l'a redit, Dieu demande à Jonas d'aller annoncer à Ninive sa destruction. En tout cas, c'est ce que Jonas entend et c'est ce qu'il comprend. Mais Jonas refuse. Il ne veut pas y aller. Il a bien raison. Je crois que j'aurais fait la même chose si j'avais été à sa place. J'aurais choisi la désobéissance. Pouvons-nous être messagers de destruction sous prétexte que Dieu nous le demande ? Question d'actualité, s'il en est. Car c'est sûr, certains répondent oui à cette question. Tuer au nom de Dieu. Alors Jonas refuse et s'enfuit. Il s'enfuit loin de l'Éternel, à l'opposé de Ninive. Dans la symbolique, il sort d'Israël. Il sort du peuple de Dieu. Il sort de sa foi en Dieu. Il quitte la confiance. Et que se passe-t-il alors ? L'Éternel ne le lâche pas. Il le suit. Il le poursuit. Alors, 2 sentiments contradictoires ici. D'abord, nous pourrions nous dire « Chouette, même si je lui tourne le dos, Dieu, lui, ne m'abandonne pas et ne me laisse pas tomber. » Deuxième sentiment, on pourrait dire « Bof, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui ne me laisse pas libre et qui me poursuit alors que j'ai choisi de me détourner de lui ?» À vous de choisir. Et puis, vous connaissez l'histoire la plus célèbre, la tempête, le poisson. Et finalement, dans ce chapitre 3, Jonas résigné qui part à Ninive. Ninive est la cité païenne par excellence. Un petit peu le symbole du mal pour le peuple juif, l'ennemi héréditaire d'Israël. Et il n'y a qu'un pas pour dire « ennemi d'Israël, donc ennemi de Dieu ». Actualité encore. Jonas leur annonce la destruction, qui provoque le retournement de cette ville, sa conversion. Et Dieu, c'est le dernier verset que l'on a entendu, renonce à la punition et pardonne. Et là, qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, Jonas est furieux. Dieu n'a pas tenu parole, alors franchement, tout ça pour ça. Il l'a fait venir pour rien, finalement. Et alors Jonas veut mourir, il en a assez. Mais Dieu ne veut pas. Dieu a le sens de l'humour. Quoi qu'on peut en dire, et souvent nous avons du mal à le voir, mais pourtant la Bible est truffée de ces rires de Dieu. On croit souvent que Dieu c'est du sérieux, qu'il faut réfléchir, il faut être très intelligent, qu'il ne faut pas rire du tout. Eh bien non, le rire est bien présent dans toute la Bible. Et ici, à la fin de l'histoire de Jonas, vous connaissez peut-être ce petit trait d'humour de Dieu qui fait pousser une petite plante au pied de Jonas qui se laisse mourir pour essayer de le faire décolérer. Vous regarderez, vous lirez le chapitre 4. Alors, comment cette histoire, ces quatre chapitres, peuvent encore résonner en nous et pour nous aujourd'hui ? Jonas, messager de Dieu, se transforme finalement en messager de malheur. Pour Ninive, pour le bateau et son équipage, qui sont tous en train de périr, et pour lui-même. Mais il est aussi messager de vie. Car l'Éternel sauve l'équipage, il n'abandonne pas Jonas et il pardonne à Ninive. Malheur, bonheur, c'est toute notre vie. Et dans ce livre, on réentend qu'elle est accompagnée de Dieu. C'est toujours Dieu qui commence, qui fait le premier pas. C'est lui qui appelle Jonas et qui l'envoie avec un message. On peut alors se demander pourquoi, dans quel but ? Pour que Ninive change de comportement ? Pour que Jonas chemine dans sa foi ? Les deux ? Dieu vient le premier dans nos vies, nous appelle à cheminer et ne nous abandonne jamais. Vous le savez peut-être, mais cette histoire de Jonas est reprise par Jésus dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Jésus cite cet exemple des Ninivites qui ont su se convertir malgré leurs actes mauvais. Il met cet accent sur la possibilité des méchants de se convertir. Alors que ceux qui se croient bons et justes, développent ensuite Jésus, dressent souvent eux-mêmes des obstacles à leur confiance en Dieu. Qui est donc ce Dieu qui m'appelle dans ma vie ? En vue de quoi ? Et comment ne pas me tromper ? Comment savoir ce qu'il veut de moi ? Est-ce que je peux refuser ce qu'il me demande ? Comment entendre quand il insiste ? On dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Alors comment les discerner ? C'est bien sûr une question très difficile. Savoir ce que Dieu me demande. Et souvent, ce sont des débats qui clôturent toute discussion. Dieu m'a dit que, alors tu n'as rien à dire. Voilà, ben alors là, on ne peut plus discuter. Peut-être la prière sincère. Et pour moi, si c'est quelque chose qui me guide vers la vie, Dieu est derrière. Si c'est quelque chose qui me guide vers la mort, Dieu n'est pas là. Une autre question. Qui est donc ce Dieu qui annonce des logiques de mort. Parce que l'homme ne fait pas ce que Dieu voudrait de lui. Qui est donc ce Dieu qui souffle le chaud et le froid sur les êtres humains ? Jonas n'a pas voulu obéir dans un premier temps, mais peut-être parce qu'il ne reconnaissait pas ici son Dieu. Peut-être que dans ce qu'il avait entendu, il ne reconnaissait pas le Dieu de miséricorde auquel il croyait. En allant encore plus loin, est-ce que Dieu punit ? Ici, c'est très clairement expliqué comme cela. Est-ce qu'il faut y croire ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous faire vivre encore aujourd'hui ? Quelle est la justice de Dieu ? Si nous lisons les 4 chapitres du livre de Jonas dans son entier, ce livre décrit finalement un Dieu de pardon et un Dieu d'amour. Parce qu'il est amour, Dieu respecte la liberté de l'humain. Et pour nous chrétiens, en Jésus-Christ, Dieu est allé au bout de cette liberté jusqu'à en mourir, afin que la confiance, le pardon et la bienveillance soient désormais sans condition, infinie et éternelle pour chacun de nous. En Jésus-Christ, plus de punition divine, mais un Dieu proche et tout amour. Un Dieu qui ne lâche pas, qui ne nous abandonne pas, qui a un projet pour nous, qui nous connaît si bien, même mieux que nous-mêmes, qu'il sait de quoi nous avons besoin, qu'il sait comment nous faire rire, retrouver le sourire, remettre debout et nous guider vers la vie. Dans notre histoire, Dieu va laisser à Jonas 3 jours et 3 nuits de réflexion dans le ventre noir du poisson. À Ninive, il va leur laisser 40 jours et 40 nuits de réflexion. Dieu est persévérant. Dieu ne lâche pas. Il ne nous lâche pas. La foi comme un chemin. C'est vrai, au début, Jonas fuit Dieu. Mais à la fin, quand Dieu choisit la vie, Jonas ne s'y retrouve pas non plus. Qu'est-ce qu'on est compliqué ? Devant Dieu, devant l'Éternel, j'ai toujours le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Je peux choisir et je dois être responsable. C'est mon choix et mon choix seul qui fera ma vie. Dieu va me proposer un chemin, mais c'est à moi de m'y engager. Et puis, devant mes choix, quels qu'ils soient, Dieu s'adapte. Il est à mes côtés. Il me guide vers la vie. Ce livre nous dit aussi que finalement, Dieu est prévisible dans sa bonté et dans son pardon. Lent à la colère. Croire, c'est prendre des risques dans la confiance et dans l'espérance. Je termine avec quelques pistes pour l'actualité qui est la nôtre ces dernières semaines. L'Éternel donne toujours du temps pour le pardon. Et il en faut parfois beaucoup. Même quand des humains choisissent d'être messagers de mort, il n'y a aucune fatalité, aucun fatalisme religieux. Les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, font aussi partie de l'amour de l'Éternel pour chaque être humain. Ma vie et ce que j'en fais suite à ce qu'il m'est donné. Dans des temps difficiles, oui, notre confiance peut être ébranlée. Notre foi va-t-elle résister aux logiques de mort, à la méchanceté, aux crises existentielles, au deuil et aux séparations? C'est peut-être finalement aussi une autre question. Puis-je accepter que ma foi, ma relation à Dieu, connaisse des hauts et des bas, des questions et des doutes, des bons moments et des creux? Oui, bien sûr que je le peux. Je le dois car je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas être un surhomme, une femme parfaite, un homme irréprochable, avec une morale à toute épreuve. Être enfant de Dieu, c'est dans les bons comme dans les mauvais moments, remettre notre vie dans ses mains, lui confier nos lendemains. Alors voici ce petit voyage avec notre ami Jonas. 4 chapitres au cœur de la relation personnelle avec Dieu. Sur ce chemin du Dieu proche, persévérant et bienveillant pour chacun. Qu'il nous guide chaque jour dans son espérance. Amen.